Nous allons nous acheminer lentement vers la fin de cette deuxième partie. Nous avons commencé la dernière fois le chapitre 3, 32, les étapes de l'itinéraire. Donc la deuxième partie de ce cours qui porte sur la question pourquoi adhérer à la foi chrétienne, donc la fonction apologétique, se termine, je dirais, d'une manière un peu analogique, que la première partie, la foi chrétienne, c'est quoi? Il s'agit chaque fois d'entrer dans un itinéraire de théologie fondamentale. C'était la page 22 dans la première partie, vous rappelez de ça. L'itinéraire spirituel de l'identité croyante. Donc il y a ici une relation étroite entre ces deux chapitres. Alors je vous avais proposé déjà la dernière fois les quatre étapes d'une argumentation, d'un argument de crédibilité à distance de l'apologétique classique. Donc à la page 32, donc la première étape, c'est les notions d'authenticité et de justesse de l'expérience humaine et spirituelle de la foi qui vont nous guider. Et si on transpose, je dirais, la question de l'authenticité d'une existence humaine située de manière juste au sein d'une société, si on transpose, si vous voulez, cette première distinction sur le plan chrétien, on rencontre ici, évidemment, la question de la sainteté, qui est centrale. Donc, j'appelle ce premier argument, argument de sainteté, authenticité et justesse normative comme argument. Et la dernière fois, on a déjà vu, si vous voulez, il y a une première étape de cet argument. Donc, on va reprendre très rapidement un peu les éléments essentiels. Le point A, la sainteté comme concordance entre pensée, parole et acte. Pour le dire d'une manière simple, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Et ce n'est précisément pas le cas pour nous. C'est pour ça qu'il y a cette confession au début de l'Eucharistie. J'ai péché en pensée, en parole et en action. On ajoute aujourd'hui l'omission, heureusement. Donc c'est, au fond, je dirais, la non-sainteté, c'est une non-concordance. Une non-concordance. Une non-authenticité en ce sens-là. Donc voyez, si vous avez ça dans le troisième chapitre, le premier point, A, le numéro 2. Le rapport à soi, donc on a ici ce que l'appelle aussi le Nouveau Testament, la simplicité, heureux les simples de cœur, à plus, la simplicité ou le oui. Le rapport à autrui, deuxième élément, le rapport à autrui, donc la célèbre règle d'or, de manière positive, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Voilà l'accomplissement de la loi et des prophètes. Donc cette règle fondamentale qui existe de manière positive seulement dans le Nouveau Testament. Donc c'est pas une règle de précaution, mais une règle positive, voilà, qui engage le tout de l'existence. Et j'ai proposé ici une transposition, la capacité, c'est ça qui est en jeu, de se mettre à la place d'un autre sans quitter jamais sa propre place, avec compassion et sympathie. Donc ça, c'est le rapport à l'autre. Et on perçoit déjà, si vous voulez, quand on parle de concordance avec soi-même et quand on parle de ce type de rapport à autrui, on pressent déjà le caractère démesuré, une démesure qui se trouve au cœur même de ce type de comportement. voyez, une démesure. Mais si vous prenez l'exemple du bon samaritain, une démesure qui s'avère ici et maintenant, c'est ça la découverte de la sainteté, à la mesure d'un tel ou d'une telle. Alors ça, c'est, je dirais, si vous voulez, déjà le cœur de l'affaire. Il y a encore le rapport à la mort, mais on va revenir dans quelques instants à la question de la mort. Parce qu'évidemment, si l'autre est un ami, il est assez aisé d'appliquer la règle d'or, relativement aisé. Mais si l'autre est un ennemi, on va bien, je dirais, je suis menacé de mort par l'ennemi, appliquer la règle d'or ne va nullement de soi. Donc il y a la question du rapport à la mort qu'il faudra traiter dans quelques instants. Alors il y a une traduction que je vous ai proposée à la page 33 en haut, très rapidement, autour des deux termes authenticité. Qu'est-ce que c'est l'authenticité ? Ce avec quoi le discours, ce que je dis, ne doit pas entrer en contradiction. Cette authenticité est vérifiable en son sens propre, en son propre ordre. Elle véhicule une sorte de d'évidence interne au sein même d'une relation. On est toujours dans un rapport à l'autre, évidemment, où l'identité de quelqu'un se présente comme recevable par autrui, précisément en raison de son authenticité, de sa concordance avec soi-même. Et d'une certaine manière, il faut d'abord présupposer ça dans une communication. Il faut présupposer ça, que l'autre dit ce qu'il pense et qu'il fait ce qu'il dit. Si je présuppose pas cela, je ne peux pas critiquer, je ne peux pas entrer dans une situation, je dirais, de critique et de débat. Et ensuite, je dirais, c'est la normativité, la justesse. Au sein de la tradition juive et chrétienne, la sainteté élève, donc qui est un genre d'authenticité, élève aussi une prétention normative. Il est parfaitement possible d'avancer des raisons valables en faveur de la validité universelle de la règle d'or, règle de respect, mais son accomplissement démesuré, c'est là où intervient la sainteté. Son accomplissement démesuré, qui consiste à se mettre à la place d'autrui sans quitter sa propre place, au point de se laisser blesser par autrui, voyez l'attitude de non-violence par rapport à l'ennemi, ou ce commandement étonnant de l'amour de l'ennemi, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes comme des païens si vous vous aimez uniquement ceux qui vous aiment, vous voyez, si vous restez sur le plan de l'équivalence. Donc on peut faire comprendre la règle d'or, mais son accomplissement démesuré n'est nullement exigible au nom d'une argumentation rationnelle. On peut la conseiller, éventuellement. Voilà. Donc c'est là où intervient la spécificité de la sainteté chrétienne. Mais voilà, seul mon engagement, donc il y a toujours une auto-implication personnelle. Vous voyez, le non exigible paraît par exemple dans la forme de la parabole. Si le pharisien pose la question à Jésus, qui est mon prochain? Comment Jésus va-t-il lui faire comprendre que c'est pas la question qui est mon prochain, qui est une question légale, d'une certaine manière. Le juif est le prochain du juif. Voilà où, je dirais, l'allemand est le prochain de l'allemand. Peu importe, vous voyez, c'est le semblable. Comment va-t-il lui faire comprendre à ce pharisien qu'il s'agit de se rendre proche, appliquer la règle d'or jusqu'au bout, non pas par un commandement, mais par une parabole. Donc que chacun s'identifie à la figure du prêtre, à la figure du lévite, ou à la figure du samaritain, et on ne le fait jamais abstraitement, par principe, on le fait dans telle ou telle situation. Donc vous voyez, ce qu'est auto-implication, c'est exactement ce que cela veut dire. Donc on ne peut pas faire une loi de la sainteté, On ne peut pas la commander. On ne peut pas commander l'accomplissement excessif, démesuré de la règle d'or. Mais on peut la vivre. Seul mon engagement propre peut susciter, par surcroît et sous forme de surprise, celui d'autrui et rendre ainsi plausible la justesse de la proposition de la sainteté. Ce qui est déjà un argument pour l'incarnation. Donc vous voyez, seul le Saint de Dieu, qu'est le Christ, peut rendre plausible cette sainteté par son vécu, en la rendant possible chez d'autres. Voilà, c'est une manière, si vous voulez, de traduire en langage contemporain les deux éléments, cohérence, authenticité et justesse normative. Et apparaît ici quelque chose de tout à fait décisif, c'est-à-dire le décentrement qui est au cœur de la tradition chrétienne. La tradition chrétienne ne prétend jamais de produire des saints, si je puis m'exprimer ainsi. Mais parce qu'elle est la tradition du Saint de Dieu, elle peut désigner et découvrir la sainteté, même anonymement répandue dans l'humanité. Voilà. Donc il y a un décentrement au cœur de cela. D'où l'admiration de Jésus. On pourrait dire la tradition biblique est une tradition d'admiration. Admirer l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de sainteté dans le monde, anonymement répandue. Alors, ce qui ne veut pas dire que parmi les chrétiens, il n'y a pas des saints, mais être chrétien ne garantit pas le devenir saint. On va retrouver ça dans Lumen Gentium, dans la troisième partie du cours. On peut être de corps sans en être de cœur. Ce qui veut dire aussi, c'est une formule d'Augustin, on peut en être de cœur sans en être de corps. Donc, vous voyez, c'est une frontière qui traverse l'humanité, la sainteté. L'agapé, la charité, c'est une autre manière de dire la même chose. Voilà, si vous voulez, vous avez là le principe, je dirais, tout est déjà dit d'une certaine manière avec cette argumentation centrale en faveur de la tradition chrétienne. Alors maintenant, il faut regarder ça dans le temps. Dans le temps, et ça c'est la suite, le passage au statut temporel de l'expérience de sainteté, et va intervenir ici, si vous voulez, un vocabulaire un peu nouveau, ce que les Anglais, les Anglo-Saxons appellent les disclosure situations. J'expliquerai un peu ce que c'est. Des situations d'ouverture, on peut traduire ça. Et donc, la temporalité de notre expérience et aussi de l'accès à la sainteté se vit à travers le récit. Vous voyez, il va intervenir maintenant. J'avais déjà introduit le récit évangélique à la fin de la première partie du cours, l'itinéraire spirituel, la définition du genre littéraire. Mais maintenant vient, je dirais, d'abord le récit sur le plan personnel. Vous voyez cette magnifique formule de Patrice de la Tour du Pin, on chante ça parfois, de Didier Rimaud, « Tout homme est une histoire sacrée ». Je préférerais presque de traduire « Tout homme est une histoire sainte ». Non pas « a une histoire sainte », mais « tout homme, toute humanité est une histoire sainte ». Évidemment, il faut faire comprendre cela. Alors, quelques remarques par rapport à cela. Vous voyez, il y a plusieurs étapes maintenant. D'abord, c'est la question de la mémoire qui va intervenir ici. Il y a temps parce que dans notre histoire propre, parce qu'il y a mémoire et éventuellement mémoire racontée, narrée. Alors, qu'est-ce que c'est la mémoire et comment ça fonctionne? Vous voyez, je vous donne ici quelques éléments, trois éléments tout à fait essentiels. D'abord, la première chose, on peut utiliser, premier élément, l'image de la sédimentation. Voilà, sédimentation, vous voyez les choses qui tombent, n'est-ce pas, comme des feuilles qui tombent dans l'arbre et qui vont donc produire de l'humus progressivement. Voilà, une sédimentation. Et donc la mémoire fonctionne comme ça. Notre existence humaine est faite d'une multiplicité d'épisodes et de mini-récits, souvent inconscients, certains plus importants, qui nous rapprochent déjà de ces disclosure situations. Et nous ne cessons, et c'est comme ça que se construit notre mémoire, de les reprendre. L'exercice de relecture, quand on fait des exercices par exemple, est de cet ordre-là. Donc on relit toujours à partir d'un moment précis. Et la sédimentation fait apparaître, si vous voulez, c'est ça la mémoire, l'enregistrement des quarts. Et c'est comme des boucles, vous voyez, ou des spirales, hein, et qui fonctionnent d'une certaine manière dans notre existence, et il y a beaucoup de répétitions, et il y a des écarts qui se produisent. Du nouveau apparaît, des écarts. Et donc notre mémoire se constitue de cette manière-là. C'est une suite de répétitions et d'écarts. Et on les enregistre, plus ou moins. Alors, pour pouvoir faire cela, il y a ce qu'on appelle des récits de référence. Et j'ai déjà parlé de ce phénomène de récits de référence. Vous voyez, une culture humaine est un ensemble de récits de référence. La culture grecque construit sur les grands récits de référence, l'Odyssée et l'Iliade. Voyez, et d'autres mythes, voilà. Ou la tradition, évidemment, je dirais chrétienne, ou la civilisation occidentale, pour une part, construit sur cette grande bibliothèque biblique. Des récits de référence. Et d'une certaine manière, si on veut tuer une civilisation, et ça existe, qu'est-ce qu'on fait, hein? On incendie les bibliothèques. On enlève à un groupe humain sa mémoire collective. Et voyez, on lui enlève à ce moment la capacité de faire son récit personnel, parce que le récit personnel, dans une culture donnée, ne peut se construire face à des récits de référence, en référence à des grands récits collectifs. Et là apparaissent évidemment aussi les écarts et les recompositions continuelles. Et on voit bien que la tradition chrétienne fonctionne de cette manière-là. Il y a le grand récit biblique, et à l'intérieur du grand récit biblique, par rapport à lui, se construisent les itinéraires de tels chrétiens. À partir du IVe siècle, vous avez le récit fait par saint Athanase de la vie d'Antoine, etc. Vous avez la vie à Moïse de Grégoire de Nice. Vous voyez, des récits biographiques où vous avez la cité de Dieu, où vous avez les confessions de saint Augustin, etc. Vous voyez, des grands récits, et ensuite les multiples biographies individuelles qui se construisent par rapport à des récits de référence. Et je dirais même l'histoire fonctionne de cette manière-là. Les historiens travaillent de cette manière-là. Parce qu'ils travaillent évidemment sur des documents, mais à partir des documents, ils font un récit historique. Le récit de la Révolution française, par exemple. Et aujourd'hui, 200 ans après, et plus, on voit les choses évidemment différemment, parce qu'il y a des écarts, et l'histoire a avancé. Donc ce point est extrêmement important, au point que Walter Benjamin a dit, au fond, les historiens, qu'est-ce qu'ils nous font? Et Michel de Certeau a repris ça, c'est-à-dire, ils permettent aux vivants de converser avec les morts. Voilà la tâche des historiens. Les récits de référence pour rendre possible nos propres récits. Et au cœur de cela, il y a une expérience de temporalité, de mémoire, temporalité, qui est fondamentalement marquée par l'expérience du contraste. L'expérience du contraste, vous voyez. L'écart. C'est-à-dire ce qui ne relève pas de la répétition. Voilà. Alors ça, c'est un premier élément, vous voyez, qu'il faut avoir enregistré un peu. J'avais déjà dit, si vous voulez, que le mot « Dieu » existe dans toutes les cultures, vous rappelez, mais c'est d'abord un mot. Ça fait partie d'un récit, ou de tel ou tel autre récit. Quand le mot « Dieu » vient dans l'Iliade, il n'a pas la même signification que quand il vient de la Bible. Et non, la Bible, elle est transformée en nom, évidemment. Alors ensuite, un deuxième élément. Ce qu'il faut repérer ici, et là on passe à un niveau très important, c'est au fond le caractère structurellement inachevé de nos récits personnels et de nos mémoires. C'est l'idée du suspense. Il n'y a pas de véritable récit, sinon on dit c'est cousu de fil blanc, vous voyez. C'est une belle expression française, n'est-ce pas? C'est cousu de fil blanc. Voilà. Alors, bon, je dis, on sait déjà comment ça se termine d'une certaine manière. Non, le véritable récit, il y a un suspense. Et c'est pour ça qu'on aime ces récits-là, parce que ces récits renvoient au suspense de notre propre existence, dont nous ne savons pas comment le demain est fait. Le récit est structurellement inachevé. Et si vous voulez, c'est à partir de cela que progressivement on peut entrer en théologie et dans l'expérience de sainteté. Première étape, c'est là où viennent les situations d'ouverture. Je me réfère ici à un philosophe, Ramsay, un linguiste, Religious Language, langage religieux, An Empirical Placing of Theological Phrases. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui tente de manière empirique de situer le discours religieux. Et donc, il évoque ce qu'il appelle les situations d'ouverture. Qu'est-ce que c'est une situation d'ouverture? Vous voyez, c'est des situations d'existence dans le quotidien, des écarts qui se produisent, des nouveautés, et qui renvoient tout un coup à la totalité de l'existence. À la totalité de l'existence. Comme si subitement une fenêtre s'ouvrait et vous faites l'expérience, oui, je n'ai qu'un seul récit et il est inachevé. Oui, je n'ai qu'une seule vie, pourrait-on dire. Il y a des situations dans l'existence. Alors, je vais vous rapidement lire le petit écrit, parce que bon, je l'ai écrit un jour pour préciser ça, parce qu'on peut en faire une typologie de ces situations. Il y a, par exemple, des circonstances où nous éprouvons une joie intense, qui nous comble et nous ravit en même temps, nous faisant percevoir dans notre existence, dans celle des autres et celle du monde, voyez, la mienne, celle des autres, le monde, l'englobant, une fécondité jusqu'alors insoupçonnée. Mais il y a aussi des circonstances de deuil, quand la disparition de quelqu'un ou de ce qui pendant longtemps a motivé notre investissement ou suscité toute notre énergie, nous laisse comme stériles, vides et sans goût de vivre. Voyez, vous trouvez là le contraste, ce que j'ai appelé. Donc au fond, les récits, nos existences, en fait, ces contrastes, ces va-et-vient, ces courbes. Voilà. Donc, joie, deuil. Il y a des situations de forte angoisse où brusquement nous perdons pied et notre environnement vacille. Il y a aussi des moments de consolation quand la présence bienfaisante d'un proche ou d'un moins proche nous communique la certitude que notre existence est portée ou protégée. Certaines circonstances, comme la décharge subite d'une violence, nous confrontent au déchaînement de force jusqu'alors inconnu, voire à la menace du chaos. Tandis que d'autres, comme une réconciliation inattendue, manifestent nos possibilités de contenir l'inimitié ou la haine et de faire triompher la bonté. Voyez, de nouveau contraste toujours. Il y a des situations d'amour fidèle où nous nous découvrons reconnus inconditionnellement, et en même temps touché par la beauté et l'amabilité d'un autre être, au point que subitement le monde entier paraît gracié et transfiguré. Mais l'ennui n'est pas loin quand un jour nous prenons la mesure du côté superficiel ou creux du réel. Vous voyez, on pourrait ici renvoyer à un classique, c'est le livre de Coëlette. C'est exactement ça. Coëlette, vous avez exactement les disclosure situations, les situations d'ouverture. Il y a un temps pour ceci, un temps pour cela. Il n'y a rien, alors avec évidemment, je dirais un peu la question de la circularité, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, mais quand vous dites ça, il n'y a rien de nouveau, vous êtes bien conscient qu'il devrait y avoir du nouveau. Sinon, vous ne diriez pas, il n'y a rien de nouveau. Donc, vous sortez déjà de cette circularité et l'écart est déjà là. Mais c'est un exemple type. Mon texte, là, que je viens de vous lire, donc je l'ai retiré de la Révélation tout simplement, c'est là où je l'ai écrit, est au fond une réécriture actuelle de ce passage très connu du Coëlette. Donc, voyez, ça, c'est la première étape, c'est-à-dire la sensibilité à des situations d'ouverture dans tout récit. Tout homme est une histoire sacrée. En toute histoire humaine, il y a des situations d'ouverture. Mais alors vient une deuxième étape, c'est-à-dire le point très important, le statut ambivalent de toutes ces situations d'ouverture et l'appel à donner sens. Voyez, l'ambivalence vient du fait qu'il y a écart et il y a contraste. Il y a contraste. Qu'est-ce qui est plus important ? Le deuil ou la joie ? Donc vous voyez, on est dans cette balance continuelle. La violence ou la réconciliation ? Etc. Donc il s'agit ici à nommer librement l'énigme de notre existence. Qu'est-ce que c'est l'énigme de notre existence ? Le caractère inachevé de notre récit est un appel qui résonne en tout être humain, un appel à donner sens. Donc, il y a un librement, précisément parce qu'il y a continuellement alternance dans nos existences, et en même temps, il y a plusieurs interprétations possibles. Je vous renvoie ici précisément à la page 22, où on a déjà vu la question dans la petite phénoménologie de la foi. Vous vous rappelez ? C'est ça que je reprends ici maintenant, un peu d'une autre manière, d'une manière plus précise. Donc je vous renvoie à ça. Et voyez, c'est à cet endroit-là où il s'agit de donner sens, où l'humanité recourt à des récits de référence. Le besoin d'identification. Alors, si c'est plus la Bible aujourd'hui, c'est tel ou tel film, par exemple, tel ou tel roman. Donc, vous voyez, la société, et c'est ça la culture, ne cesse de créer des récits nouveaux. C'est donc le rapport aux récits de référence. Des récits tragiques, des récits qui se terminent par l'indécision, ou des récits qui ont un fondement éthique, vous voyez. Émerge ici un rapport possible à la mémoire de Jésus, et à sa propre manière d'affronter l'énigme de sa propre existence. Et c'est peut-être ça la première chose que nous y lisons dans les récits. À sa manière de vivre avec un récit inachevé. Jésus, vous voyez, qui dans le chapitre 4 de Luc, alors Luc est le plus explicite sur cette question de récit de référence. Le récit de référence de Jésus, c'est quoi ? C'est le texte prophétique, c'est Élisée, c'est Élie, c'est Isaïe, Élie-Isaïe, vous voyez, comme texte de référence. Aujourd'hui, cette parole est accomplie devant vous qui m'entendez. Mais le récit de Jésus, vous voyez, il décode ce récit de référence et il vit avec ce récit de référence, il invente son existence au jour le jour, mais il est devant un ultime inachevé, alors qu'il se termine soit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» donc chez Marc et Matthieu, voilà, ou alors une autre manière de dire l'inachevé, entre tes mains je mets mon esprit. Donc voyez, vous avez là le récit de Jésus comme récit de référence. Et donc, on peut avoir un rapport d'extériorité par rapport à ce récit, le lire comme un bien culturel, ce qu'on va bientôt faire. Ça, c'est une première solution, ou une autre solution, c'est de rapatrier le récit de la vie de Jésus dans sa propre existence. Voilà. Donc, un rapport d'identification. Voilà, si vous voulez, je dirais, c'était mon deuxième petit point ici, des situations d'ouverture et la composition du récit personnel. Tout homme est une histoire sacrée, une histoire sainte. C'est dans ce sens-là où je le dis. Alors vient maintenant, évidemment, le point décisif que j'ai déjà annoncé au début, tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la mort. Donc, quand on dit notre récit individuel est inachevé, se pose évidemment la question du rapport à la mort et à la vie, et pointe ici quelque chose dont on a déjà parlé, voyez, le définitif dans la révélation chrétienne. Le définitif. Et on va retrouver ici donc la pointe de l'argument de crédibilité. Alors, continuons les différents éléments, trois éléments. Parler du caractère inachevé de chacun de nos itinéraires, c'est mettre en relief l'indétermination ou la vulnérabilité originaire de l'être humain et entendre l'appel à donner sens. Donc, par cette phrase, je reprends, si vous voulez, l'acquis du paragraphe précédent. Donc, l'appel à donner sens ne retentit pas quotidiennement dans notre existence, mais il retentit dans notre existence quand il y a ces situations d'ouverture. Beaucoup d'éléments, je le redis encore une fois, dans nos existences, c'est de l'ordre de la routine, de la répétition. Mais il y a des passages de crise et il y a les situations d'ouverture. Ah, alors à ce moment-là, la question du sens, de l'orientation se pose. Le scandale de la mort présente dans la vie, qui arrive ici, à cet endroit-là, sous toutes ses formes. Dans le chapitre premier, j'avais parlé de la question « Y a-t-il du sens ?» Vous vous rappelez de ça? Ce n'est pas uniquement la question « Quel sens donner ?» Mais dans les situations d'ouverture véritable, la question peut devenir beaucoup plus radicale. Y a-t-il du sens dans l'existence? Donc apparaît la question de la mort. Et se révèle ici un lien étroit, c'est ça que je voudrais montrer, c'est pour ça que c'est la pointe de cette étape, entre sens et sainteté. Un rapport entre sens et sainteté. C'est la question de la mort qui introduit ce rapport et permet de pousser l'argument de sainteté jusqu'au bout. Apparaît en effet ici, face à la question de la mort, une alternative. Finalement, comment prendre la mort? La mort, c'est un fait, inévitable. Inévitable, indépassable. Comment le prendre? C'est ça la question. Et il y a dans l'Écriture un mal prendre la mort, la finitude ou la contingence, et il y a un bien prendre la mort. Donc, voyez, la question du sens de l'existence qui émerge dans les situations d'ouverture, ultimement, c'est celle-là. Oui ou non, est-ce que je vais prendre bien ou mal la mort? Et le sens, c'est ça. C'est là où il se joue pour la tradition biblique, mais pour aussi pour d'autres traditions religieuses. Alors, je vous ai donné ici, si vous voulez, deux textes. Je vais au moins lire le premier. Hébreu. C'est sans doute, je dirais, l'épître aux Hébreux qui pousse jusqu'au bout la réflexion sur la mort d'un point de vue anthropologique. Parce que vous avez dans ce texte cette formule assez étonnante, on ne meurt qu'une seule fois, dans Hébreu. On ne meurt qu'une seule fois. C'est le texte qui dit ça. Alors évidemment, je dirais, je le dis tout de suite, mais je vais y revenir. Vous avez des traditions où on ne meurt pas une seule fois. Si vous avez comme présupposé la réincarnation, on ne meurt pas qu'une seule fois. On renaît et on remeurt, etc. Même si c'est une malédiction dans l'hindouisme. Mais l'Épître aux Hébreux souligne ce phénomène anthropologique, au moins pour l'Occident, qui a créé peut-être l'Occident. En Occident, on ne meurt qu'une seule fois. Donc l'unicité de l'existence. Et alors du coup, comment on va prendre ce phénomène? Et vous avez donc dans le chapitre 2, les versets 14 et 19, ce passage extraordinaire. Ainsi donc, puisque les enfants, il s'agit des enfants de Dieu, ont en commun, donc avec le Christ, le sang et la chair, lui aussi, pareillement, partage la même condition donc de chair et de sang, ou ce que j'appelle ici la finitude et la contingence. Par sa mort, alors je continue, afin de réduire, ça c'est l'œuvre du Christ, à l'impuissance par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Donc, vous voyez, le mal prendre de la mort, c'est de se faire esclave de la mort. Et au fond, la ruse du malin, peu importe les termes, on pourra y revenir plus tard, est de nous faire esclaves de la mort, c'est-à-dire de donner à la mort une pouvoir qu'il n'a pas. Et donc l'œuvre du Christ, c'est au fond de bien prendre la mort, ce que nous raconte l'Épître aux Hébreux, par l'obéissance, par l'écoute, il prend bien la mort, et du coup, ce qu'il nous arrive tous une fois, de bien ou de mal prendre la mort, lui, il l'a bien prise, et du coup, il a enlevé, nous dit le texte, à la mort le pouvoir qu'il a sur nous, et nous permet de la bien prendre. De la bien prendre. Voilà l'œuvre du Christ. C'est absolument remarquable, ça. Et vous avez quelque chose d'analogue dans l'Apocalypse 12:11, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit des saints? Alors là, c'est le vocabulaire de la sainteté. Qu'est-ce qu'on dit des saints? Ils n'ont pas aimé la vie au point de craindre la mort. Et ce qui est remarquable, je dis, chez saint Paul, la mort, c'est le dernier ennemi, d'où, dans l'hébreu, la victoire du Christ sur la mort, mais chez saint François, c'est la sœur. Voilà, la sœur, magnifique, dans le cantique de saint François. Dernière strophe ajoutée à la fin de sa vie. La mort, ma sœur. Vous voyez, ça, c'est la mort bien prise. Et peut-être c'est quelque chose entre tes mains, je remets mon esprit, vous voyez, c'est cette manière-là, au fond, de terminer, voilà. La mort bien prise. Alors, pourquoi la mort est-elle ennemie pour la Bible? Vous voyez, il y a d'abord ce que nous avons lu déjà dans le texte de Kant, il y a donc le point de départ, au point de départ de notre existence humaine, souvent, il y a la comparaison. Alors, il y a quelque chose de très positif dans la comparaison. Vous voyez, un enfant ne peut pas devenir enfants et adolescents, adultes, sans se mesurer, voyez, aussi à ses parents et à son frère et à sa sœur, se mesurer, comparer, voyez, la comparaison peut conduire vers la jalousie, mais la comparaison peut aussi conduire vers l'unicité. L'unicité. Donc la jalousie, la comparaison, la jalousie, et que devient la violence. Et le deuxième récit de la création avec Caïn et Abel nous raconte précisément ça. Vous voyez, ce sont des manières de contourner sa propre finitude et de s'affirmer au détriment de la vie d'autrui. Et le mensonge, c'est au fond, je dirais, l'ultime manière de mal prendre la mort, c'est-à-dire c'est la négation de la finitude. Je ne suis pas fini. L'orgueil. Donc vous voyez cette décréation qui nous est décrite la Bible autour, au fond, je dirais, du mal prendre la mort. Ça, c'est le mal prendre la mort. Mais il y a le bien prendre la mort. Et précisément, vous voyez, on revient ici à la règle d'or. Donc face à la comparaison, à la jalousie, à la violence et au mensonge, vous voyez, ce qui est dramatique et négatif dans l'histoire humaine, c'est la capacité de s'exposer. Ça, c'est précisément l'œuvre du Christ. Capacité de s'exposer, c'est-à-dire de se mettre à la place d'autrui sans quitter sa propre place, mais en la redécouvrant. Le don de soi. Comme dit Saint Jean de Jésus, Jésus disant, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Voilà. Donc, vous voyez, la mort, bien prise, transformée en don de soi. C'est l'histoire du Samaritain, du bon Samaritain. Et du coup, si vous voulez, je dirais, on devient, le bon Samaritain devient unique en mettant en jeu tout ce qu'il avait sur le moment, il devient unique pour cet homme qui est tombé parmi les brigands. Voilà, si vous voulez, je dirais, le bien prendre. Alors, où est-ce qu'on en est, le troisième petit point, pour le moment, pour prendre vraiment cette question, c'est une théologie de la mort que je vous propose ici, de la prendre vraiment au sérieux. La mort est un passage essentiel dans la vie. Je pense que ça, c'est universel, on peut le dire. Il n'y a pas de vie sans mort. Est-elle aussi, voilà la question, je dirais, qui apparaît maintenant au point où on en est, est-ce qu'elle est aussi, la mort, un passage pour la vie, en vue de la vie? On pourrait parler ici, vous voulez, je dirais, du cycle, je reviens à la répétition, vie, mort, voilà, le grain de blé tombe et renaît, il retombe, vous voyez, c'est le cycle de la nature. Donc là, la mort fait partie de la vie. Il n'y a pas de vie sans mort. On pourrait dire la même chose des générations. Pour qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive, il y a quatre qui cohabitent sur notre globe, à peu près quatre ou cinq générations. Pour qu'il y ait une nouvelle génération arrive, il faut qu'il y ait une génération qui disparaisse. Sinon, le globe ne peut pas être peuplé. Donc de ce point de vue-là, la mort fait partie de la vie. Et dans toutes les religions, c'est présent. Mais la question ici de la tradition biblique, messianique, mais est-ce que la mort est pour la vie? Et bien prendre la mort, comme Jésus, comme Saint François, bien prendre la mort, donc la transformer en don de soi, ce qu'est la sainteté, est-ce que c'est pour la vie? Voyez, la pointe, la question de la résurrection. Alors, ça sera mon deuxième tiret. Tout être humain peut, voyez, je reviens, c'est pour ça que j'ai préparé le terrain dans le premier chapitre, peut, c'est une postulation, peut découvrir dans une conversion humaine que son existence est orientée vers une résurrection, et voyez, j'ai mis pour le moment le mot résurrection entre guillemets. voire un définitif. Ça, c'est la thèse. Donc, tout homme est une histoire sacrée, situation d'ouverture, où se présentent les situations d'ouverture, où il peut donner sens à son existence, et donner sens à son existence, c'est pas une opération intellectuelle, peut-être aussi, mais s'orienter dans l'existence, c'est-à-dire de transformer l'inachevé de son existence en don de soi. Et donc l'élément que j'ajoute maintenant, c'est pour une résurrection, pour un définitif. Et encore une fois, quiconque peut faire cette expérience-là peut le postuler, mais ça implique une conversion humaine. Alors, quelques données anthropologiques pour montrer ça. Vous voyez, il y a des étapes A, B, C, D. Il y a des étapes. On est sur un itinéraire. Comme être biologique, nous sommes en effet totalement intégrés dans l'évolution du vivant. Nous sommes des mammifères supérieurs, mais des mammifères. Voilà. La mort y paraît liée à la sexualité. Il y a un lien intime entre mort et sexualité. Tant que les êtres se reproduisent par fission ou bourgeonnement, on est dans une continuité. Il n'est pas encore vraiment question de mort. Il y a du pourrissement, oui, voilà. Mais je dis, il y a une sorte de continuité. La génération des êtres vivants continue et la mort en est la condition. Mais dès qu'il y a sexualité, c'est-à-dire bipolarité, quelque part, voyez, en vue d'un troisième, alors la mort apparaît. Et on peut parler de génération. De génération. La mort apparaît. Comme un phénomène, donc, du vivant, mais du vivant, je dirais, qui se reproduit, de manière cellulaire, etc., on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas la question, mais il y a génération. La génération des êtres vivants continue à ce moment-là, mais la mort en est la condition. Or, maintenant vient le distinctif humain. Ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il sait qu'il est mortel. Voilà, c'est ça la différence. Voyez, vous repérez ça dans les premières manifestations dans les cavernes, les dessins que vous avez, donc les objectivations sont tous des dessins mortuaires, donc qui manifestent une conscience de la mortalité. Alors les mammifères supérieurs, évidemment, ils ont un instinct de survie et qu'ils anticipent le danger, bien sûr, mais l'être humain a une conscience de la mortalité. Et cette conscience est pour ainsi dire double. D'un côté, l'être humain sait qu'il est autre que le vivant. Il est un vivant, mais il est autre, il y a quelque chose d'autre. Il est plus que la vie biologique. J'aime bien cette formule de Matthieu, n'est-ce pas ? Vous êtes plus que votre manière de vous habiller, etc. Regardez, le plus que. Nous sommes conscients, comme être humain, d'un plus que. Parce que précisément conscients de notre mortalité. Nous n'avons qu'une seule vie. Et de l'autre côté, nous savons aussi que la vie perdrait tout son poids si nous pouvions indéfiniment la recommencer, remettre sans cesse le compteur à zéro. Vous voyez, l'unicité disparaît à ce moment-là. De ce point de vue-là, il faut bien dire heureuse mort, parce que c'est la mort qui est, avec la naissance, le sigle, si je puis dire, n'est-ce pas, la signature de notre unicité. De notre unicité. C'est-à-dire, nous n'avons qu'une seule vie. Si ça continuait indéfiniment, imaginons ça un instant, n'est-ce pas, c'est l'enfer. Rien n'a de poids parce qu'on peut tout recommencer. Et d'ailleurs, si vous voulez, si, je dirais, les occidentaux libéraux que nous sommes, les êtres de consommation, où tout devient provisoire, même le droit gère le provisoire, si nous nous sommes tellement intéressés à la réincarnation, même beaucoup de chrétiens, nous disent les statistiques, ne savent plus très bien distinguer la résurrection de la réincarnation. C'est parce que ça nous intéresse que tout est provisoire. Parce qu'on peut sans cesse, c'est le mythe de recommencer son existence. Alors il y a maturité dans la vie humaine parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas recommencer. Parce qu'il y a du définitif. Et du coup, le bateau humain prend des quilles, prend une quille. Il y a du définitif. C'est remarquable, ça. Alors ça, c'est le présupposé anthropologique, pourrait-on dire, fondamental de la foi biblique et chrétienne. Fondamental. Il n'y a qu'une seule vie. Mais c'est la garantie de l'unicité de l'être humain. Il y a du définitif. C'est d'ailleurs ce qui que saint Paul le dit d'une autre manière, tandis qu'il a des images extraordinaires, tandis que notre demeure charnelle s'en va, pendant que l'homme extérieur s'en va, l'homme intérieur est en train de naître et prend de force. Vous voyez, une sorte d'asymétrie entre les deux, qui étonne d'ailleurs beaucoup les scientifiques, parce que la mort commence tôt dans l'existence humaine, le non-renouvellement des cellules. Alors que la maturité est plutôt vers la fin, la mort commence tôt, voyez. C'est inversement proportionnel, et quand on rencontre parfois des personnes âgées, évidemment il y a l'Alzheimer et tout ça qui existe, bien sûr. Mais la maturité est un phénomène surprenant, la maturité humaine. Voilà, donc quelqu'un qui est expérimenté en ce sens-là, c'est quelqu'un dont le bateau a une quille, c'est-à-dire il a des coups, il prend bien la mort. C'est ça l'enjeu. Donc, voyez, je prends ici la formule, l'exemplaire, la découverte, que je suis n'existe qu'une seule fois. Il est unique. Naissance et mort sont comme le sceau apposé sur lui qui ensemble lui donne le poids. C'est le terme de gloire, hein, en hébreu, poids, le poids d'unicité. Alors, voilà, première étape. Alors, l'attente de résurrection, que ce que nous, bibliquement appelant la résurrection, naît dans cette réalité paradoxale de l'être humain qui est, il faut bien le reconnaître, comme une question sans réponse. Donc l'attente de ce que nous appelons résurrection naît dans cette structure paradoxale de notre mortalité. Cette résurrection, c'est, pose problème. Pourquoi elle pose beaucoup problème? Finalement, là c'est une question aussi catéchétique. Pourquoi elle pose problème? Parce que nous l'imaginons spontanément comme une simple continuation. La résurrection comme continuation. Finalement au sens, je dirais, d'un bourgeonnement, vous voyez. Continuation. La terminologie de la résurrection nous induirait donc en erreur si elle nous conduisait à prolonger à perte de vue par notre imaginaire le temps et à contourner ainsi le fait brutal de la mort. La résurrection n'est pas une manière de contourner le fait brutal de la mort parce que disparaîtrait immédiatement notre unicité. Ce laps de temps entre le commencement et la fin, voilà, disparaîtrait. Comme si l'éternité était une simple prolongation du temps. Comme disait cette blague, hein, « Oh, c'est long l'éternité, surtout vers la fin ». Vous voyez, c'est-à-dire, quand on dit ça, on imagine, n'est-ce pas, l'absurdité finalement de ce type de raisonnement. De confusion entre temps et éternité. L'Écriture elle-même évite ce piège en utilisant des métaphores comme celle du grain de blé tombé en terre, donc c'est plutôt la fécondité, ou celle de l'arbre de vie. Alors, comment traduire ces métaphores? Dernière étape, ces images visent, en fait, notre mystérieux, voilà la proposition que je fais, théologique, notre mystérieux capital de maturation, à la résurrection, notre mystérieux capital de maturation qui nous échappe toujours davantage, l'homme intérieur nous échappe radicalement, ce que veut dire d'ailleurs la théologie de la justification du pécheur, Dieu seul sait, voilà. Voilà. Notre vie est cachée en Dieu, c'est une manière de dire ce qui nous échappe radicalement, notre capital, mystérieux capital de maturation qui nous échappe toujours davantage au fur et à mesure que nous avançons sur nos chemins, capital pourtant, paradoxe, entièrement livré à nos choix de vie. Bien prendre la mort. Le vocabulaire de la résurrection désigne donc finalement, voilà, la visée d'accomplissement. La visée d'accomplissement. Or, il est impossible de nous représenter la vie en son accomplissement. Il est impossible. État que nous anticipons cependant sans cesse. Sinon, nous ne pouvons pas vivre. Voilà, si vous voulez, une manière un peu de dire pourquoi tout être humain est une histoire sainte. Dès qu'il y a « disclosure situation », la question de la mort et du bien prendre de la mort se pose, et se pose donc ce lien possible, c'est une postulation entre sens et don, et entre sens et sainteté. Alors d'où le deuxième petit point, des lieux d'expérience maintenant, où se manifeste cette visée d'accomplissement, donc dans les situations d'ouverture. Et il y en a trois, à mon avis. Là, il y a une structure fondamentale. Premièrement, toute décision qui engage la vie et la mort est déjà une présence d'éternité dans le temps. Voyez le chèque en blanc quand on fait des vœux, hein, ou quand on se marie. Voyez, c'est pour ça, là, la tradition chrétienne insiste tellement sur l'indissolubilité. Après, il y a les questions, évidemment, quand il y a, parce que nos histoires sont courbes. Évidemment, ça c'est une deuxième question, mais il faut d'abord comprendre pourquoi. C'est le chèque en blanc d'une certaine manière, c'est une décision qui engage le tout, jusqu'à ce que la mort vous sépare, cette magnifique formule, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ou des vœux, vous voyez, le même type. La même chose vaut pour nos relations, dès qu'elles impliquent durée et fidélité. La notion de fidélité, vous voyez, c'est une manière de dire... le capital de maturation qui est livré à notre décision. C'est une manière que je n'ai dit, fidélité, c'est dire je n'ai qu'une seule vie. Je la mets en jeu. Fidélité. Troisièmement, l'expérience de solidarité éprouvée et de l'engagement qui correspond, qui répond ou correspond, impliquant la promesse d'une humanité réconciliée. Mais pourquoi Médecins sans frontières? Mais c'est une manière de vivre finalement, je dirais, radicalement pour d'autres. Pourquoi s'engager pour la question écologique, c'est-à-dire pour la cinquième génération que nous connaîtrons plus, de maintenir le globe habitable? C'est une manière de manifester la résurrection déjà. Un accomplissement qui n'est pas pour nous, pour moi, uniquement, mais qui est pour l'autre et pour le tout. Alors, on avait pressenti ça dans les utopies des 19e et 20e siècles, quand on parlait de société sans classe, ou rappeler la formule de Habermas, communication universelle et sans contrainte. Voyez, que serait une justice et une bonté pour tous qui n'impliqueraient pas ceux et celles qui sont déjà morts et qui mourront encore pour cette cause sans avoir vu de leurs propres yeux ce que pourtant ils avaient inauguré. Est-ce que l'être humain est uniquement des... Est-ce que ce sont des copeaux, vous voyez, quand vous rabotez du bois? Est-ce que nous sommes uniquement des copeaux pour une société qui sera meilleure après nous? Voilà. Donc dès qu'on s'engage pour l'avenir, pour la paix, collectivement, on implique déjà, vous voyez, quelque chose comme la résurrection. Par ce genre d'expérience et bien d'autres encore, nous sommes invités à une conversion de nos sens. Percevoir ici et maintenant déjà cet accomplissement à l'œuvre qui se cache dans toute existence. Voilà, c'est le temps de faire la pause et on reprendra ensuite le deuxième argument. Bien, si vous voulez, on va continuer. Donc, nous sommes à la page 35 et vous avez encore là un tout petit résumé. Donc, le noyau de l'argument de sainteté en faveur de la tradition chrétienne. Donc, la première chose... c'est que la tradition chrétienne, c'est pas une tradition uniquement de sens, comme on en a beaucoup, mais elle fait le lien entre sens et don, abandon de soi. Voilà, donc ça c'est le point essentiel. Donc le lien entre le sens et la sainteté de l'existence. Vous voyez, c'est pas une tradition intellectuelle, même si elle a déployé évidemment une forte intellectualité qu'on appelle la théologie. Mais voilà. C'est pour ça que je parle du style plutôt, comme un style, voilà. Donc un lien intime entre sens et don et abandon de soi. Et évidemment, je dirais, c'est une réponse. Un appel, ça c'est le point universel qui est tout à fait décisif, qui retentit en tout être humain, parce que tout être humain connaît des disclosure situations, des situations d'ouverture, qui renvoient cet être, ici et maintenant, au caractère inachevé de son existence, et donc au phénomène de la mort, de la mortalité. Et donc, à ce moment-là, il est possible de donner sens en mettant en jeu son existence. Donc la question de la cohérence de soi et aussi, évidemment, la mise en œuvre de la règle d'or. C'est justement ça la figure du Christ. En s'opposant à toute violence, donc de vivre son unicité, non pas comme dirait Paul, comme une proie à saisir, mais en découvrant que naissance et mort, précisément, sont le lieu où l'existence peut devenir unique si elle met en jeu cette existence. Voilà. La mort, non pas seulement dans la vie, mais pour la vie, mais pour une vie, c'est ce que j'appelle le capital de maturation, l'homme intérieur, dit Paul, une vie qui est irreprésentable, mais qui est en même temps livrée à chacun. Et donc j'ai donné ici les trois éléments d'expérience, de décision, de fidélité et d'engagement pour l'humanité qui permettent de vivre ce type d'existence. Alors la conclusion. La sainteté comme argument principal en faveur de l'authenticité et de la justesse de la foi chrétienne est tirée du cœur même de sa tradition. Donc ça c'est le premier chapitre. Tradition, livraison de soi, vous vous rappelez? Elle explicitait déjà ça. Et c'est au fond, si on regarde le titre le plus ancien qu'on a donné du Christ, au Christ, Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Donc on le trouve aussi dans les Actes, ici le chapitre 6 de Saint Jean. À qui irions-nous? Tu as des paroles de la vie éternelle. Tu es le Saint de Dieu. Et on a la même formule analogue, le même titre dans le premier discours de Pierre à la Pentecôte, qui cite le psaume, je crois que c'est le psaume 16, je ne me rappelle plus très très bien, je ne vais pas regarder là maintenant, qui cite le psaume, « Tu ne laisseras pas ton saint connaître la corruption. » Là, vous trouvez le lien intime entre sainteté et résurrection. Donc la sainteté comme argument principal est tirée du cœur même de la tradition chrétienne, mais, je l'ai dit ici à nouveau, suppose un décentrement de cette tradition par rapport à elle-même, parce qu'au cœur de la tradition chrétienne, il n'y a pas le chrétien, mais au cœur de la tradition chrétienne, il y a le Christ, ou comme on dirait, le chrétien tourné vers quiconque. Le chrétien s'intéressant à quiconque. Tout homme quiconque peut accéder à la sainteté. Quiconque est en effet le sujet principal de l'intérêt de Jésus. Cela implique que la totalité de l'argument de crédibilité est impliquée dans ce premier temps, à savoir dans l'expérience humaine et spirituelle d'une foi engendrée par quelqu'un d'autre, comme nous avons vu. La foi, c'est toujours la mienne, mais elle est toujours engendrée par quelqu'un d'autre dont je perçois la crédibilité. Je suis toujours unique pour quelqu'un, comme l'homme tombé parmi les brigands, je leur ai dit, est unique à ce moment-là pour le bon samaritain. Cela veut dire, en toute histoire humaine, un événement peut se produire. Une disclosure situation qui ouvre à quelqu'un l'accès à la foi, la plus élémentaire. Autrement dit, l'être humain n'est pas naturellement croyant. Il faut absolument maintenir ça. L'être humain n'est pas naturellement croyant. Mais c'est un événement. Il le devient. Il le devient. L'être humain n'est pas naturellement croyant. La foi, même la plus élémentaire, est toujours un événement où se produit la communication du courage d'être, je reviens à la première partie du cours, grâce à la santé et à la sainteté de quelqu'un. Et sans doute d'abord, je dirais, la figure parentale. Un courage d'être ouvert à un accomplissement définitif, qu'il soit présupposé implicitement ou explicitement confessé, c'est ensuite une autre question. Voilà, si vous voulez, j'ai dit l'argument de sainteté, le premier, le plus important. Alors maintenant vient un deuxième argument qui va nous prendre un peu de temps aujourd'hui et encore la prochaine fois. La crédibilité du récit biblique. J'appelle cela maintenant l'argument narratif et historique. Donc il y a deux versants dans cet argument, nous allons le voir. Voyez, si vous revenez à la page 32, le sens se trouve déjà inscrit, vous voyez, les étapes de l'argumentation. On a vu le premier, authenticité, justesse. Il faut traiter les points 2 et 3 ensemble. Le sens se trouve déjà inscrit dans des textes, donc ce que j'appelais à l'instant des récits de référence, des traditions. Nous vivons avec une pluralité de production de sens. Le texte biblique doit être abordé ici, en sa totalité, dans une double perspective, du côté de l'authenticité et de la justesse. Ce texte peut être lu comme texte d'identification qui véhicule un type d'humanité, un texte ensuite comme expression d'une tradition qui véhicule la vérité. Et là intervient le moment le plus difficile. Pourquoi finalement s'inscrire dans la tradition chrétienne comme une tradition vraie? Alors voilà donc la crédibilité du récit biblique, l'argument narratif et historique. Je fais très vite le début parce qu'après on va s'arrêter plus lentement. Le retour du récit, donc, qui revient ici, dans nos sociétés postmodernes, je pense qu'on peut le dire, on est des sociétés qui s'intéressent beaucoup au récit, au conteur, au cinéma, à la littérature, etc., aux mythes, aux contes. Nous vivons avec des récits. Et donc, des récits d'identification, comme je le disais tout à l'heure, déjà. Et donc, se pose ici, évidemment, la question d'authenticité et justesse est d'abord sous forme de l'authenticité du conteur lui-même, du cinéaste, de l'écrivain. On lit à la fois son produit, mais on s'intéresse beaucoup à lui aussi aujourd'hui et à son authenticité. Personne n'est obligé d'adopter un récit particulier comme récit d'inférence. Ça fait partie de notre postmodernité. Il y a donc ici un seuil déjà présent dans les récits évangéliques. Personne n'est obligé de se retourner vers le Nazaréen pour s'intéresser à lui. Alors, je cite toujours ici l'exemple des 10 lépreux. 9, 10 sont guéris, 10 ont rencontré le Nazaréen, 9 sont partis, un seul est retourné. Personne n'est obligé. Alors ça, nous découvrons davantage aujourd'hui. Personne n'est obligé de s'intéresser au récit évangélique comme récit qui fait vivre les disciples. Je peux avoir un intérêt culturel pour le récit aussi. Et c'est déjà énorme. Alors, vous tournez la page, le deuxième argument de crédibilité, donc que j'appelle argument narratif et historique ou argument christologique, se trouve dans une position de médiation entre le premier et le troisième argument. Le troisième argument, c'est l'argument de raison. Et donc, c'est là où il s'agira de la question de vérité. Il se trouve donc dans une position de médiation. Il s'appuie sur une double lecture du texte biblique, c'est ça la médiation, dans la perspective du premier argument, première lecture du texte, qui s'intéresse au type d'humanité véhiculée par le texte. Donc, comme historien, sociologue, ou comme lecteur psychanalyste, ou simplement humain, je peux lire et retransformer d'ailleurs le texte biblique, par le cinéma, comme un texte d'humanité. Le texte véhicule un type d'humanité. Et donc je fais, vous voyez, abstraction à ce moment-là de la question de la vérité. Est-ce que ce qui nous est raconté là est vrai? C'est une autre question. Dans la perspective du troisième argument, il y a une deuxième lecture possible du texte sous l'angle de la vérité. Donc, vous voyez deux manières de regarder bien le texte biblique. Alors, je fais ici un petit retour à l'apologétique classique d'abord. On va prendre un petit quart d'heure pour faire cela. Donc, vous voyez les arguments prophétiques de l'accomplissement, du signe et de la résurrection, ou, autrement formulé, finalement, la démonstratio christiana. Donc, je vous rappelle le schéma 2 à la page 59. C'est ce schéma-là, vous voyez, vous vous rappelez de ça, en 59. La démonstratio christiana, donc il y a la démonstratio religiosa, la démonstratio christiana et la démonstratio catholica. Donc, la démonstratio christiana, l'argument christologique, pourrait-on dire, comment fonctionne-t-il dans la lecture classique de la Bible. Et on va critiquer ça, on va rencontrer la notion de miracle, et ça nous permettra ensuite de l'aborder aujourd'hui autrement. Alors, la structure globale de l'argument. très bref rappel, parce que c'est maintenant la troisième fois que j'en parle. L'Ancien Testament est donc lu dans une perspective prophétique comme une collection de textes qui prophétisent la venue du Messie. L'exemple le plus typique, classique, c'est Isaïe 7, 14, traduit selon les Septante. Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Le débat avec Achaz, n'est-ce pas? Vous connaissez le texte. Voici que la Vierge est enceinte et enfante un fils. Ça, c'est le premier exemple. Donc, dans cette perspective apologétique, on va dire, eh oui, elle a effectivement enfanté un fils, c'est Marie. Donc, le prophète a prévu la conception virginale du Christ. C'est comme ça qu'on a lu les choses, vous voyez, hein, argument apologétique. L'autre, celle-là qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai suivi moi-même encore la catéchèse, quand j'étais jeune, le serviteur souffrant que nous lisons pendant la semaine sainte, le vendredi saint, comme première lecture. Ah, alors le professeur nous faisant vivre ça. Vous vous rendez compte, Isaïe a prévu la mort du Christ, comment il s'est passé. Ah oui, ça a convaincu les gens. Moi, comme enfant, ça m'a convaincu. Et donc, prophétie accomplie. Voilà. Prophétie accomplie. Voilà. C'était dans les années 58, vous voyez par là, 57. C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Voilà. Alors, comment les prophètes ont-ils pu annoncer que c'est effectivement arrivé? Dieu les a inspirés. Vous voyez l'argument. Dieu les a inspirés. L'argument. Alors Jésus n'a pas seulement accompli les prophéties de l'Ancien Testament, il a aussi fait des miracles et des signes. Celui qui fait des signes est Messie. Luc 4 et avec Isaïe 61. Deuxième élément de cet argument. Et finalement, le Messie a été crucifié. Mais Dieu l'a justifié par le miracle par excellence qu'est la résurrection. Des témoins ont pu constater ce fait historique. Ce fait historique. On a des témoins. Voilà, vous voyez, ça commence à signifier. Alors évidemment, derrière, il y a un point très important, et la définition du miracle. Et donc, on va, si vous voulez bien, un peu regarder ça. Donc, je vous invite à la page 58 de votre dossier. Donc, vous avez là, évidemment, le texte. À la page 58, donc, je vous ai mis ici un petit dossier sur les miracles. Ça, c'est très important, ce dossier. Gardez-le bien. Donc, à la page 98, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, 98. À la page 98. Donc, je vous ai mis là un dossier important sur l'histoire du miracle, l'interprète. Qu'est-ce que c'est un miracle? Ça, c'est important de l'avoir encore aujourd'hui dans la catéchèse. Donc, je vais parcourir ça avec vous. Donc, voyez, vous avez d'abord... la définition du miracle à Vatican I, vous l'avez le même texte déjà à la page 68 de votre dossier. Ne cherchez pas, il se trouve dans le troisième chapitre de Dei Filius. Vous voyez, c'est ça. Néanmoins, pour que l'hommage de notre foi fût conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit, on ne peut pas croire sans le Saint-Esprit, bien sûr, soient accompagnés de preuves extérieures. Vous voyez, on est dans la logique des preuves de Dieu, on a déjà vu ça, des preuves extérieures de sa révélation, à savoir, maintenant viennent les termes, des faits divins. Le point de départ, c'est des faits divins. Des prophètes inspirés, les miracles de Jésus et la résurrection, des faits divins. Et surtout les miracles et les prophéties qui, en montrant excellemment la toute-puissance et la sagesse infinie de Dieu, sont des signes très certains de la révélation adaptée à l'intelligence de tous. Voilà, vous voyez le cœur de ce type de raisonnement. Donc vous avez là trois termes, les facta divina, des faits qui sont des miracles, et des miracles qui sont des signes, c'est-à-dire des signes qui renvoient à quoi ? À Dieu lui-même. Donc, vous voyez, vous avez cette triade-là. Facta divina, miracula et signes. Évidemment, c'est déjà très intéressant de voir ça. C'est-à-dire un fait compris comme miracle et qui est un signe, c'est-à-dire qui renvoie à une signification. Le fait en lui-même n'a aucun sens s'il n'est pas conçu comme un miracle et finalement, ultimement, comme un signe de la présence de Dieu. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vous voyez, si on prend de nouveau maintenant les trois, donc l'argument prophétique, alors qu'est-ce qui est problématique ici, maintenant ? Qu'est-ce qui est problématique ? La première chose qui est problématique, c'est au fond, il y a une inversion. Il ne faut pas nier la prophétie. Mais qu'est-ce qui est d'abord ? Est-ce qu'il y a d'abord la prophétie et ensuite son accomplissement ? Ou est-ce qu'il ne faut pas comprendre les choses exactement d'une manière inverse ? C'est-à-dire, c'est l'accomplissement qui permet de comprendre le texte d'Isaïe comme prophétie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Luc, justement, le montre admirablement. L'itinéraire de Jésus chez Luc, vous voyez, Jésus est dans le temple. Et c'est là où ils sont tous étonnés de son intelligence des Écritures. Ça, c'est le point de départ. À 12 ans, l'intelligence des Écritures, et avec déjà une énigme qui est posée ici, Marie qui a reçu l'ange et la promesse, comment peut-elle dire, toi, ton père et moi t'ont cherché? Et voyez, il y a le décrochage qui va se produire ici. Jésus ne répond pas directement. Vous ne saviez pas que je dois être dans ce qui est de mon père? Voyez la distinction qui s'opère ici entre la paternité humaine, paternité d'adoption, pourrait-on dire. Je n'entre pas dans le problème christologique ici. Et la paternité divine. Mais ensuite, Jésus va lui-même faire l'expérience. Il va prier, dit Luc, le psaume. Et il va entendre une voix qui lui dit le psaume. Aujourd'hui, tu es mon fils, aujourd'hui, je t'ai engendré. Donc, en priant le psaume, il fait l'expérience de ce qu'il est depuis le début. L'expérience de la filiation. À ce moment-là, il est conduit vers le désert et il y a la dispute avec le diable sur l'interprétation des Écritures. Si tu es du Fils, si tu es le Fils, jette-toi d'ici, de la cime du temple. Et voyez, Jésus répond toujours avec l'Écriture. L'Écriture interprétée par l'Écriture, mis en difficulté avec l'Écriture. Donc, il passe l'épreuve, les anges le servent. Et à ce moment-là, il va arriver à Nazareth et il va interpréter la prophétie. Aujourd'hui, voilà, la prophétie d'Isaïe s'est accomplie. Donc, vous voyez, c'est l'interprète qui prend le texte et on peut lire tout l'évangile de Luc et les actes de cette manière-là. Jésus décode son existence dans les Écritures, il la prend radicalement au sérieux, et du coup, voyez, on comprend que ce texte est prophétique qui s'accomplit en lui. Vous voyez, le sens est exactement inverse. Alors ça, c'est une première chose, et une deuxième difficulté par rapport à l'argument prophétique, c'est dire, c'est la relation au judaïsme qui apparaît ici. Nous ne pouvons pas simplement dire, voilà, nous avons celui qui a accompli les Écritures, donc elle nous appartient maintenant à nous. Donc vous voyez, les Écritures appartiennent aussi au judaïsme. Et donc on est dans une relation avec le judaïsme et dans un conflit d'interprétation qui continue toujours. Voilà, pour vous signaler le problème de l'argument prophétique. Maintenant, si on regarde la notion de miracle, donc les miracles de Jésus, alors là vous avez deux traditions. Deuxième débat. Alors, vous retournez à la page précédente de votre dossier, donc 97, et je vous ai donné ici les textes, à la fois la tradition augustinienne et la tradition thomiste. La tradition augustinienne, qui est une tradition narrative, les miracles opérés par notre Seigneur Jésus-Christ sont évidemment des œuvres divines, et en partant, vous voyez, toute une pédagogie du visible, ils exhortent l'esprit de l'homme à avoir l'intelligence de Dieu. En effet, comme Dieu n'est pas une nature qu'on puisse voir avec les yeux, et que les miracles par lesquels il dirige l'univers et gouverne toute la création ont tellement perdu de leur valeur à force d'être répétés, vous voyez, les disclosure situations ne sont pas tous les moments, mais on vit dans la répétition, et donc le sens de l'invisible s'amenuise dans notre existence, que presque plus personne ne daigne faire attention à ce que Dieu opère d'admirable et d'étonnant en chaque graine de semence. Il s'est réservé dans sa miséricorde d'accomplir en temps opportun, voyez les disclosure situations, les situations d'ouverture, certaines œuvres en dehors du cours habituel et de l'ordre de la nature, et maintenant vient la finalité, afin que ceux qui n'ont plus de considération pour les merveilles de tous les jours s'étonnent en en voyant non pas de plus grandes, mais d'insolites. C'est magnifique ça. Gouverner le monde entier est en effet un miracle plus grand que de rassasier 5000 hommes avec 5 pains. Et pourtant, alors que personne n'admire ces merveilles, les hommes admirent le miracle, non parce qu'il est plus grand, mais parce qu'il est rare. Voyez notre fascination pour le rare, pour l'insolite. Qui en effet maintenant encore nourrit l'univers ? Sinon celui qui crée les moissons à partir de quelques grains. Le Christ a donc agi en tant que Dieu. De la même manière, en effet, qu'il multiplie les moissons à partir de quelques grains, il a dans ses mains multiplié les 5 pains, car la puissance se trouvait entre les mains du Christ, et ces 5 pains étaient comme des semences, non pas certes confiées à la terre, mais multipliées par celui qui a créé la terre. Voici donc, placé devant les sens, ce qui est destiné à élever l'esprit. Et on revient toujours à cette pédagogie ici. Voici manifesté aux yeux ce qui est destiné à exercer l'intelligence, afin que par le spectacle d'œuvres visibles, nous admirons le Dieu invisible, et qu'élevé jusqu'à la foi, purifié par la foi, nous arrivions au désir de voir l'invisible. Celui-là même qu'à partir du visible, nous reconnaîtrons comme invisible. Voilà, ça c'est Augustin. Donc cette sorte de pédagogie qui est absolument magnifique. Alors maintenant, la formule thomiste, deuxième tradition. Le mot miracle vient du mot admiration. Ah, vous voyez, ça n'entend plus. Admiration. L'admiration se produit quand des effets sont manifestés dont la cause demeure cachée. Ainsi, celui-là est dans l'admiration ou l'étonnement. Voyez là, on rentre de nouveau, comme dans l'épreuve de Dieu, dans le langage des causes. La cause est cachée. Ainsi, celui-là est dans l'admiration ou l'étonnement. Toujours des exemples chez saint Thomas, qui voit une éclipse de soleil et on ignore la cause, comme le note Aristote au début de ses métaphysiques. Or, la cause d'un effet apparent à tous peut être connu par certains et ignoré par d'autres. D'où il suit que ces derniers sont dans l'admiration, non les premiers. Un paysan admire une éclipse de soleil, l'astronome ne s'en étonne pas. Mais le miracle est un événement qui produit pleinement l'admiration en ce sens que la cause est entièrement cachée à tous. Et cette cause, c'est Dieu. Rappelez-vous l'épreuve de Dieu ? C'est pourquoi les choses que Dieu fait en dehors des causes à nous connues sont appelées des miracles. Donc voilà une nouvelle définition. Les choses que Dieu fait en dehors des causes à nous connues. À nous connues. Et vous avez la formule d'Augustin tout à fait en bas. Alors, il va introduire ici, saint Thomas, une distinction tout à fait décisive entre la cause première et les causes secondes. Donc, je vous laisse lire un peu ce texte, pas maintenant, mais il est facilement décodable, facilement maintenant. Les causes secondes, vous voyez, les causes secondes, c'est ce qui produit dans l'immanence. Mais lui, il utilise des exemples, par exemple le roi par rapport à son royaume, ou le chef de maison par rapport à sa maison. Mais il y a une sorte d'hierarchie de causes, vous voyez. Il y a les ordres. Et si Dieu est au-dessus de tout, vous voyez, au-dessus de tout, tout à fait au bout, il est la cause première. Alors, ce qu'il fait est caché à nous, parce que nous vivons toujours dans les causes secondes. Mais la cause première nous est cachée. Et donc, quand nous voyons des miracles, dit saint Thomas, nous n'arrivons pas, d'une certaine manière, de passer directement des causes secondes à une cause première. Alors, la finale est intéressante. C'est pourquoi il peut agir en dehors de tel ordre institué quand il veut Dieu. Il peut, par exemple, produire les effets des causes secondes sans leur concours ou produire certains effets qui dépassent la puissance des causes secondes. De là cette parole de saint Augustin, Dieu agit contre le cours habituel de la nature, mais il ne fait rien qui aille contre sa loi souveraine, pas plus contre lui-même. Donc vous voyez, il prend chez saint Augustin, saint Thomas, uniquement si vous remontez à saint Augustin, c'est-à-dire, il prend uniquement la formule « certaines œuvres en dehors du cours habituel » et de l'ordre de la nature. Ce qui disparaît ici chez saint Thomas, cette idée que, au fond, c'est du rare. Et c'est que le rare est toujours là pour nous stimuler, nous susciter, pour nous inviter à mieux comprendre ce qui est commun, c'est-à-dire le miracle par excellence, qui est l'existence de tout être humain et qui est l'existence de l'univers. Donc ça disparaît ici. Alors du coup, voyez la suite. Au XIXe siècle, je reviens à mon parcours, page 36. Au XIXe siècle, la tradition thomiste prend le dessus. Comment sortir donc dans la confusion entre la rationalité scientifique et une perspective spirituelle, précisément qui est celle d'Augustin, et qui est marquée par la raison narrative et pratique? Donc, comprendre le rare au service du plus grand. Et le récit biblique est exactement fait de cette manière-là. Les signes messianiques, les aveugles voient, les boiteux marchent, voyez, c'est en vue du plus grand, en vue du plus grand. Et là, on est plutôt dans la logique augustinienne. Alors du coup, si vous voulez, on touche ici, on ne peut pas ne pas faire de l'épistémologie, la fonction épistémologique de la théologie fondamentale. On touche ici un problème très fondamental de notre époque, c'est la distinction entre différents types de rationalité. La distinction entre différents types de rationalité. Ne pas confondre ce qu'on ne pouvait pas encore faire dans le système thomiste, on distinguait des causes secondes et les causes premières, la cause première, on ne peut plus le faire aujourd'hui de cette manière-là. La rationalité scientifique ne peut pas être confondue avec une rationalité narrative, le mythe et la narration, et donc pratique. Alors je précise ici, la rationalité est narrative et pratique en lien avec l'argument de sainteté, l'argument prophétique, l'argument du signe et de la résurrection répondent en réalité à une seule question. Quel type d'homme en attente de son accomplissement? Quel type d'homme nous est proposé par le récit biblique? Quel type d'homme? Ça, c'est la rationalité narrative et pratique. La réponse, un type d'homme en attente de son accomplissement, par-delà de la mort, résurrection, qui rencontre sur son chemin celui, le Christ, qui lui ouvre, sont les situations d'ouverture, rares, l'espace de ce désir, le désir d'accomplissement. Voilà une manière, si vous voulez, audible pour tout être humain, et là je ne suis pas encore sur le plan proprement théologique, de traduire, vous voyez, l'argument d'accomplissement, l'argument, j'ai dit, du miracle, et l'argumentation à partir de la résurrection. Un type d'homme en attente de son accomplissement par-delà la mort, qui rencontre sur son chemin celui qui lui ouvre l'espace de ce désir. Est-ce que je me reconnais, est-ce que nous nous reconnaissons en ce type d'homme? Alors je me rends compte, pardonnez-moi, que j'ai oublié le troisième point plus haut. Donc je vous ai parlé, donc j'y reviens maintenant. Je vous ai parlé de l'argument prophétique, de difficultés, de ça. Je vous parlais des deux traditions augustiniennes et thomistes et le risque de confusion du miracle. À propos de la résurrection, est-ce que la résurrection est un fait historique? Non. D'un point de vue historique, elle n'est pas un fait historique. D'un point de vue de l'historien, ce qui est un fait historique, c'est la foi de ceux qui ont dit il est ressuscité. Vous voyez, c'est ça que je dis là. L'historien ne peut jamais prouver. Ce qui veut dire aussi nier ou constater la résurrection de Jésus de Nazareth. C'est pas de son ressort. Alors pour une simple raison, vous vous rappelez, je vous ai expliqué dans le premier chapitre de la première partie de ce que l'historien peut et ne peut pas. Voyez la règle d'analogie. Un historien n'est pas compétent dans ce qui n'arrive qu'une seule fois. Parce qu'il est obligé de comparer. Et la résurrection du Christ, c'est absolument unique. Donc ça ne relève pas de l'historien. Mais ce qui relève de l'historien, c'est un énigme. Et il peut constater qu'il y avait des gens qui croyaient qu'il était ressuscité. Donc le fait dont parle Vatican I, je dirais même le miracle, et je dirais même le signe, les trois, c'est pas en soi la résurrection, mais c'est la foi de ceux qui ont confessé il est ressuscité. La mort violente du Christ a été vécue par ses disciples comme un échec. J'y reviendrai en détail la prochaine fois à propos de la question de la vérité. Donc après cette débâcle, comment le mouvement de Jésus a-t-il pu continuer et renaître? Ça, c'est une énigme pour l'historien. Donc vous voyez, triple difficulté, ce qui ne marche plus dans l'argument classique. Premièrement, l'argument prophétique fonctionne à l'envers dans le Nouveau Testament. On va de l'accomplissement vers la découverte de la prophétie. Deuxièmement, les miracles, c'est le plus rare au service du commun. Et ce n'est pas une question de causalité. Alors, je dis ça après le 19e siècle. Et troisième difficulté, l'historien ne peut pas constater le fait de la résurrection, mais il constate la foi de certains. Voilà. Donc, ça met en débâcle complète l'apologétique classique. Voilà. Et du coup, apparaît ce que je viens de dire, ensuite, la différenciation de différents types de rationalité. Et il faut d'abord poser la véritable question dans une perspective narrative, c'est-à-dire quel type d'homme nous est proposé par le récit biblique. Je répète, un type d'homme en attente de son accomplissement par-delà de la mort, qui rencontre sur un chemin, sur son chemin, celui qui lui ouvre, c'est les situations d'ouverture rares, l'espace de ses désirs. Oui ou non, est-ce que je me reconnais, est-ce que nous nous reconnaissons en ce type d'homme? Et c'est ça la question. Est-ce que nous pouvons devenir aujourd'hui des hommes et des femmes comme des hommes et des femmes bibliques? Voilà. Ça, c'est la première question. Alors, ensuite, intervient la rationalité historique. Et là, on passe du côté de la vérité. Ce qui s'est passé avec cet homme et ce qui en est rapporté par les témoins, est-ce vrai? Voilà l'autre question. Donc, vous voyez, c'est le point B maintenant. Je vais commencer juste B. Donc, première lecture du texte biblique, le récit parabolique, un récit d'identification, un type d'humanité. Et ensuite, à la page suivante, c'est deuxième lecture du texte biblique, histoire et vérité. Et c'est là où va intervenir la question de la vérité. Alors, je dirais quelques remarques sur la première lecture, c'est celle qui nous est le plus habituelle, dans la liturgie aussi. Il y a une méthode, ce qu'on appelle la lecture canonique ou narrative d'une Bible reçue comme objet culturel. Donc la Bible est d'abord un des multiples textes qui peuplent nos bibliothèques, textes d'identification, d'humanité. Alors ce récit, abordé sous la forme du grand récit, voilà, nous propose un monde. Alors ça, c'est la grande thèse de la narratologie depuis à la fois, je crois que c'est Franck Kermode qui a forgé ce terme de grand récit. La Bible est un grand récit entre l'alpha et l'oméga, entre la Genèse et l'Apocalypse. C'est une magnifique construction, c'est une vision. Et Paul Ricoeur, Paul Beauchamp ont repris cela. Et Paul Ricoeur a ajouté, ce récit, c'est en même temps un monde. Un monde, le monde de la Bible. La Bible est un monde. La lecture canonique ou narrative s'interroge alors sur le lecteur. Deuxième élément, vous connaissez ça. Le texte, comment aide-t-il? Voilà la question de l'analyse narrative. Le texte, comment aide-t-il le lecteur à entrer dans son monde? Donc, voyez, le texte donne des indications. Ça, c'est la fonction du narrateur qui accompagne le lecteur et qui fait de nous des narrateurs, qui nous indique comment on peut accéder dans ce monde de la Bible. Cette problématique du lecteur a été déjà présente lors de l'analyse de l'argument de sainteté, le rapport entre récit de vie et récit de référence. C'est-à-dire comment mon récit de vie peut-il être mis en contact avec le récit de référence, le monde de la Bible. La question de la crédibilité du récit biblique se pose ici sous une première version et sous deux formes ici. Premièrement, le monde proposé par le récit biblique est-il habitable? Ça, c'est la première question. Quand je suis dans ce récit, comme lecteur, est-ce qu'il est habitable, ce monde? Et voyez, le terme royaume veut exactement dire ça. Qu'est-ce que c'est le monde de la Bible? C'est le royaume. C'est le royaume, le règne de Dieu. Est-ce que c'est habitable? Première question. Et ensuite, deuxième question, pour moi comme lecteur, ce monde me permet-il, nous permet-il de bâtir un monde habitable? C'est les deux questions. Quand je suis devant ce texte, comme je suis devant l'Iliade ou l'Odyssée, tout ça c'est des mondes. Quand je rentre dans le monde de la Bible, est-ce que ce monde est habitable pour moi? Et est-ce que ce monde-là, si je l'habite, est-ce qu'il me permet de rendre habitable notre monde? Voilà, si vous voulez, la question. Et c'est là où je vous propose, premièrement, un exemple. Marc 4, parce que vous avez un phénomène absolument remarquable dans le monde de la Bible et qu'il n'existe pas, par exemple, dans le Coran, ni dans le Talmud, ou dans d'autres textes. C'est-à-dire, ce qui a produit notre liturgie, c'est-à-dire que le macrocosme de la Bible, le monde, est présent dans des plus petites unités qu'on appelle des péricopes. Ce qui fait quand vous êtes confronté à un évangile le dimanche, vous êtes à la fois confronté à un épisode et en même temps, dans le petit fragment, c'est le tout qui s'y trouve. Donc ça, vous avez une caractéristique propre du monde de la Bible et qui vous explique aussi, je dirais, qu'on peut y mettre notre propre récit dedans ou qu'on peut retrouver, reformuler notre propre récit en fonction de ce monde. Alors l'exemple type est ici le chapitre 4 de Marc. Vous voyez, vous avez dans le chapitre 4 de Marc les paraboles. Quelques instants, j'explique juste un peu ça et on va terminer pour vous faire comprendre l'essentiel de cet argument. Vous voyez chez Marc, en 33, on nous est dit que toutes les paraboles de Jésus sont des paraboles. Ah, ça c'est étonnant, vous avez une première concentration. Il ne leur parlait qu'en paraboles et en particulier il expliquait tout à ses disciples. Toutes les paroles de Jésus sont des paraboles. Et en Marc 13, toutes les paraboles trouvent leur clé dans une parabole, celle du semeur. Comment voulez-vous comprendre toutes les autres paraboles si vous ne comprenez pas celle-là? Donc, voyez, vous avez cette sorte de structure en abîme, ici, une sorte de concentration. Et ce que Marc vous fait comprendre là, c'est-à-dire le monde comme parabole. Le monde comme parabole. Le monde de la Bible, le royaume, voilà, comme parabole. Tout peut devenir parabole du royaume de Dieu. Alors évidemment, la parabole du semeur, c'est une parabole relationnelle. Évidemment, une parabole relationnelle, écoutez, qui a des oreilles pour entendre, qui l'entend. Vous voyez, vous avez la relation fondamentale du monde. Il s'agit d'écouter, mais on n'est pas obligé. Si on a des oreilles, on entend. Et Jésus parle ici d'un autre tout en parlant de lui-même. Vous voyez, c'est ça la métaphore, la parabole. Il met en scène la confiance du semeur et ainsi sa propre confiance absolue. Sa parole sera suivie de l'effet, l'écoute. 100 pour 1, 80 pour 1, etc., etc. Donc, il s'expose, il se livre dans cette parabole à l'écoute d'autrui. Et la forme de la parabole, vous connaissez maintenant le terme de parabole, donc la transposition, la métaphore sur une autre scène, laisse précisément la liberté aux auditeurs, aux lecteurs. Tu peux écouter si tu as des oreilles. Certains restent, et Jésus leur explique qu'il aurait pu partir. Voilà. À vous qui êtes restés, le mystère est donné. Et voyez, c'est l'unique événement de la Bible, du monde de la Bible, c'est ça. Donc c'est cette sorte de centration sur un seul événement. Et derrière, vous allez lire ça, Isaïe 55, où déjà toute la parabole du semeur se trouve. Comme ma parole, comme la pluie, n'est-ce pas, et le soleil sort du ciel, etc. Ils ne reviennent pas sans avoir porté du fruit et avoir donné la semence au semeur, etc. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche, et si elle sort de ma bouche, elle ne peut pas retourner sans effet. Donc, vous avez ici la centration de l'ensemble du monde de la Bible, finalement, sur un seul événement. Et c'est au fond, ce seul événement se trouve à des multiples endroits dans le même monde de la Bible. Et donc, les pères de l'Église ont fondé là-dessus, finalement, leur propre lecture narrative des Écritures. On va y revenir avec la question, est-ce que nous, on peut encore habiter ce monde Et l'habiter, est-ce ce monde, est-ce qu'il rend habitable le nôtre? Voilà la question qui est posée. Donc, à mardi prochain.